longtemps ici et je pense que des personnes que je ne connais pas du tout. Donc, moi, c'est Teresa. Et son, je vais dire un peu plus plus tard, mais je ne connais pas trop vos habitudes non plus dans l'église, mais à Brignoux, là où je suis d'habitude, les gens, ils n'ont pas peur de parler, de donner des réponses s'il y a des questions. Donc, je vous encourage que vous avez le droit de répondre aux questions, de donner vos idées. Et je vais commencer avec une question. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Enfant de Dieu. Si on me pose cette question, je pourrais dire, moi, c'est Teresa Johnson. Je suis fille de mes parents. Je suis la femme de Boone. Je travaille à Champfleury. Je suis citoyenne des États-Unis, mais j'habite en France depuis 20 ans. Quoi d'autre? Je peux aussi dire que je suis introvertie, que j'aime la cuisine et le jardinage, que je me sens chez moi entourée de montagnes. Voici quelques pistes que je peux donner de si on me demande qui je suis.
Maman de deux grands gaillards.
Maman de deux grands gaillards, Jean-Jacques les connaît assez bien. Ils sont très sympas, on les aime bien. Et il y en a l'aîné qui va nous quitter en août et ça va être un peu difficile. Donc, la deuxième question, et il y avait déjà une réponse. Qui êtes-vous en Jésus? Disciple de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, il y avait été dit tout à l'heure. Et si on demande, qu'est-ce que l'œuvre de l'Évangile a fait dans ta vie? Comment est-ce que ça t'a changé? Tu peux dire, j'étais et maintenant je suis. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'étais perdu et je suis trouvé, sauvé. J'étais pêcheur et je suis pardonné, saint. J'étais orphelin, je suis enfant de Dieu. J'étais esclave, je suis libéré. La liste continue. Je pense qu'on peut faire ça pendant une demi-heure si on veut vraiment. Mais on va s'arrêter là. Et pourquoi toutes ces questions? Parce que notre texte, nos six versets, sept versets d'aujourd'hui, ça parle de notre identité en Jésus. Et ça parle un peu de l'identité de Jésus aussi. Donc, c'est quelque chose qui est un peu central dans ces versets, en 1 Pierre chapitre 2. Et pour parler de cette identité, Pierre, il utilise plein de mots qui sont tirés de l'Ancien Testament et de la tradition juive. Il y a aussi beaucoup, on verra beaucoup de citations qui sont là. Donc, on va lire nos versets pour aujourd'hui. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. » Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous, qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. C'est la parole de Dieu. Vous voyez des choses qui parlent de notre identité en Jésus? Il y en a. Des mots, des phrases, des images. Et ça parle aussi de Jésus, de son identité. Et nous allons passer la plupart de notre temps aujourd'hui sur les versets qui parlent de notre identité. Mais d'abord, je pense que si c'est notre identité en Christ qui importe, c'est bien de passer un peu de temps sur son identité aussi. Donc, pour faire cela, on ne va pas tout faire dans l'ordre. On va faire un peu thématique et j'espère que c'est assez clair. Mais commençons avec verset 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc on a Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie et précieuse devant Dieu. Et Pierre, il élabore ses idées dans les versets 6 à 8, qui régorgent de citations de l'Ancien Testament. C'est presque que ça. Et dans le second 21 que j'utilise, on voit ça en paragraphe, mais dans beaucoup de Bibles, ça se voit comme ça. Et tout ce qui est vert, c'est une citation de l'Ancien Testament. Donc, on voit qu'il y a Ésaïe 28, 16, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, celui qui croit en elle n'en aurait jamais honte. » Il y a Psaume 18, 22, qui était même cité par Christ, quand il y avait les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui lui demandaient quelle autorité il avait pour enseigner. Et on a un autre verset en Ésaïe, une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Donc, on voit que Christ, il est la pierre vivante, choisie et précieuse, et la pierre angulaire. Et je vous avoue que l'image de Christ comme pierre angulaire est un peu plus simple que moi que l'image de Christ comme une pierre vivante. C'est quoi une pierre vivante? T'en as jamais vu une? Moi, non. Jean n'en ai jamais vu. Normalement, une pierre, c'est quelque chose d'inerte, de solide, de sûr, d'amovible. Quelque chose qui peut servir de fondation, une base solide. Et vivante, c'est quelque chose qui agit, c'est quelque chose qui bouge. C'est un peu le contraire. Et on a les deux en Jésus. Il est ce fondement solide et sûr, et il est aussi le Dieu vivant. Il est le Dieu qui agit, qui parle, qui règne. C'est un peu prendre les deux choses les plus importantes et les mettre en un. Et on a Jésus, notre pierre angulaire vivante, ou notre pierre vivante angulaire. Et dans cette présentation que Pierre il donne de Christ comme pierre vivante et angulaire, il présente aussi le sort de ceux qui l'acceptent et ceux qui rejettent. Pour ceux qui l'acceptent, ils n'en auront jamais honte. Et pour ceux qui le rejettent, c'est un obstacle qui fait trébucher. La désobéissance les fait s'y heurter. Et on a tous, chaque personne, un choix face à Jésus. Soit on l'accepte, comme la pierre vivante angulaire, soit on le rejette. Et notre rejet fait qu'il devient pour nous un obstacle sur lequel on s'y heurte. C'est le destin de tous ceux qui rejettent Jésus. Et en servant des citations de l'Ancien Testament, Pierre souligne le fait que Jésus est l'accomplissement de ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Jésus est le Messie attendu pour les Israélites depuis tant d'années. Il est le sacrifice ultime et parfait, le plan de Dieu pour nous réconcilier avec lui. Mais, comme on lit dans ces versets, beaucoup ne l'ont pas reconnu et l'ont rejeté. Peut-être qu'il ne correspondait pas à leurs attentes d'un Messie qui allait leur sauver de l'Empire romain. Dans tous les cas, ils ont rejeté. Et voilà, on arrive à peu près à la fin de ce que ces versets disent sur Jésus. Et on va passer à ce que ces versets disent sur nous, sur notre identité. et sur le comportement qui peut en découler. En verset 4, on dit « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Jésus est la pierre vivante et angulaire. Et les récipients de la lettre, les chrétiens, sont quoi? Des pierres vivantes aussi. Rejetés par les hommes et choisis par Dieu. On peut voir ça en chapitre 1, versets 1 à 2, où Pierre il dit « À ceux qui sont étrangers et dispersés, dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu. » Donc nous, les chrétiens, nous sommes aussi des pierres vivantes. On a été choisis. Et en choisissant de croire en Jésus, la pierre vivante et angulaire, nous sommes comme lui. Il nous fait vivre, il nous donne son esprit, nous avons son Saint-Esprit en nous, nous sommes vivants. C'est juste un des exemples dans la Bible, on pourrait en tirer plein, mais c'est l'exemple dans ces versets où nous ressemblons à Jésus, notre Sauveur et Seigneur. On est des pierres vivantes. Mais il ne s'arrête pas là. On est aussi une maison spirituelle et un groupe de prêtres saints. Et prenons quelques minutes pour réfléchir à ces deux concepts. Maison spirituelle et prêtres saints. Quand je lis ces versets rapidement, ils me donnent un sentiment d'avoir de la valeur, d'être aimé, d'être important à Dieu. Et je pense que c'est vrai. Mais quand je m'arrête un peu pour réfléchir à ces mots, j'avoue que cela me rend aussi perplexe qu'autre chose. Et quand je suis perplexe, j'ai tendance à creuser, à poser des questions pour essayer de comprendre. Donc, Jésus est la pierre vivante, angulaire. Nous sommes des pierres vivantes et ensemble, nous formons une maison spirituelle et un groupe de prêtres saints. Et c'est quoi une maison spirituelle? Est-ce que vous avez une image en tête quand vous pensez à une maison spirituelle? Moi, c'est un peu ça qui me vient en tête. C'est l'église de Prigny. Et pour moi, quand je pense à une maison spirituelle, je pense à l'église. Et plutôt les peuples que le bâtiment. Mais pour ceux qui habitaient dans les années 60, peu après Jésus, quand cette lettre était écrite, c'était probablement pas cette image qui leur venait en tête. Ah, ça c'est pas la maison de Dieu, ça c'est les prêtres. Je sais pas quelle image de prêtre vous avez en tête quand vous lisez que nous sommes des prêtres. Ça, c'est nos prêtres d'aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui me parle vraiment à moi parce que je suis pas dans une église avec un prêtre. Mais si je pense aux prêtres d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Mais pour les personnes qui lisaient cette lettre, qui avaient reçu ça, ce n'est pas ça l'image qu'eux, ils avaient en tête pour une maison spirituelle et pour les prêtres saints. Eux, ce qu'ils avaient en tête, c'était plus ou moins ça. C'était le temple à Jérusalem. Peut-être une synagogue locale, mais surtout le temple. Et c'est les prêtres aussi qui sont dans le temple. Quand on pense au temple, on pense aussi aux prêtres qui servent dans le temple. Et en contraste avec nos églises aujourd'hui, où tout le monde est bienvenu, on a tous accès, je pense que je pourrais aller dans presque n'importe quelle pièce de cette église sans avoir peur d'être quelque part où je ne devrais pas aller. Mais dans le temple, ce n'était pas ça. Il y avait des endroits où tout le monde était bienvenu. C'était surtout les cours extérieurs. Et après, il y avait des endroits de plus en plus restrictifs, jusqu'au lieu très saint, où il y avait la présence de Dieu. Et uniquement, le grand prêtre était permis d'accéder au lieu très saint, et ça, une fois par an. La présence de Dieu, il y avait une fois qui pouvait y accéder, une personne qui pouvait y accéder une fois par an. Et nous, aujourd'hui, On en est où avec la présence de Dieu? On a accès librement. Il habite en nous, le Saint-Esprit. On est vivante par le Saint-Esprit. Et le temple, c'est quoi le but, l'objectif du temple? Offrir des sacrifices. C'était un lieu de culte, un lieu d'adoration, un lieu de prière. Il y avait beaucoup de sacrifices, des sacrifices en continu, des sacrifices d'animaux, des sacrifices des offrandes de farine et d'huile. Et c'était aussi, comme j'avais dit, la demeure de Dieu. C'était la présence de Dieu parmi son peuple. C'était central pour les peuples juifs. Et pour les personnes à qui Pierre écrivait, ils vivaient encore dans ce temps peu après Jésus. C'est dans les années 60. Il y a quelques-unes de ces personnes qui ont peut-être connu Jésus. On peut imaginer. Et ça, c'était encore leur monde. C'était cette idée d'avoir un temple, d'avoir les sacrifices qui allaient les purifier, qui allaient les pardonner. C'était là qu'il y avait la présence de Dieu pendant des siècles et des siècles. Et il y a eu ce changement avec Jésus. Et donc, on voit que... Je me suis un peu perdue dans mes notes. Mais le temple, c'était encore central pour les Juifs. Et Pierre, il était en train de les encourager, de leur dire, « Mais vous êtes ensemble, vous formez le temple de Dieu. Et vous êtes les prêtres. Vous avez le droit, l'autorité d'être dans la présence de Dieu. » Et avec tout ça, on va revenir à notre verset. Après qu'il explique qu'ils sont des pierres vivantes, qu'ils sont le temple de Dieu, qu'ils sont des prêtres saints, il y a deux petits mots afin d'eux. Et c'est des petits mots, mais ils sont importants. Parce qu'il y a encore un comportement qui découle. Et ce comportement, c'est offrir des sacrifices spirituels. Et on vient de parler que les prêtres, c'est un de leurs rôles, c'est d'offrir des sacrifices. Mais il y a un petit problème. Eux, ils sont chrétiens. Ils croient que Jésus, c'est le sacrifice ultime, parfait, le sacrifice qui finit tous les autres sacrifices. Ils n'ont plus besoin d'offrir de sacrifices parce que Jésus était leur sacrifice parfait. Et c'est à travers lui, son œuvre sur la croix, sa mort, sa résurrection, qu'ils sont devenus la maison de Dieu et les prêtres saints. C'est à travers son œuvre. Donc c'est quoi ces sacrifices qu'ils vont offrir? Parce que c'est logique que s'ils sont des prêtres dans une maison spirituelle, ils vont offrir des sacrifices. Mais quels sacrifices? Est-ce que vous avez des idées? L'adoration, la louange, la reconnaissance. J'ai quelques exemples de quelques versets. En Hébreux 13, on lit « Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. En Romains 12, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. En Éphésiens 5, vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice. Et même dans l'Ancien Testament, on peut voir des exemples de sacrifices qui ne sont pas d'animal. Ésaïe 56, son temple sera appelé une maison de prière. En Samuel 15, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Et Osée 6, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'au holocauste. Donc les sacrifices que Pierre demande de ses prêtres, qui forment une maison spirituelle, C'est les sacrifices de la louange, la prière, l'amour, l'entraide, la bonté, l'obéissance. Et c'est vrai pour nous aussi. C'est des sacrifices que nous pouvons offrir à Dieu parce que nous sommes des pierres vivantes, que nous formons une maison spirituelle et que nous sommes des prêtres saints. C'est le comportement qui découle de cette identité que nous avons en Jésus. Mais Pierre, il n'a pas fini de parler de notre identité en Jésus. On va continuer avec versets 9 et 10 qui disent « Mais vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Donc, on voit la même structure avec l'identité. D'abord, les deux petits mots à fin d'eux et un comportement qui découle de cette identité. À des pierres vivantes, un peuple, une maison spirituelle et des prêtres saints, Pierre ajoute maintenant un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte et un peuple racheté. D'abord, Pierre leur dit qu'en contraste avec ceux qui ont rejeté Jésus, ceux qui l'ont accepté sont un peuple choisi. Et la Bible a beaucoup de choses à dire sur le peuple choisi. Quand vous entendez ces mots, que vous vient en tête? Le peuple choisi. Israël. Et c'est là que ça continue. Ça commence avec Abraham en Genèse. On peut lire en chapitre 18. L'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » Et cette idée de peuple choisi, ça évolue tout au long de l'Ancien Testament, pour inclure de l'Ancien Testament, et ça évolue dans le Nouveau Testament, pour commencer à inclure tous ceux qui suivent Jésus. Le peuple choisi, d'abord, c'était Israël. Avec Jésus, le peuple choisi est élargi pour inclure toute personne qui veut suivre Jésus. Là où c'était assez limité, c'est devenu un peuple qui est le plus divers possible. Il n'y a pas de limitation à qui peut devenir un membre du peuple de Dieu. Et je pense que c'est important parce que, comme j'avais déjà dit, ces personnes, ils habitaient peu après Jésus. Et ils avaient entendu depuis des années, des siècles, que le peuple de Jésus, c'était Israël. C'était le peuple juif, c'est eux le peuple de Dieu. Et en ces versets, Pierre, il veut les encourager, les assurer que le peuple de Dieu, c'est aussi eux, que eux, ils ont une place. Et encore plus important, parce que c'est des personnes qui sont dispersées, qui sont rejetées, qui sont persécutées. On peut imaginer qu'ils se demandent « Où est ma place ?» Est-ce que j'ai une place? Oui, tu as une place dans le peuple de Dieu. Tu as été choisi et tu fais partie de mon peuple maintenant. Et après peuple choisi, on a des prêtres royaux. Moi, je n'ai pas d'image d'un prêtre royal, donc j'ai trouvé une image d'un prêtre un royal, un roi. Et je dis, bon, on va les mettre tous les deux ensemble. Parce que ça aussi, la royauté, c'est quelque chose qui est loin de notre vie d'aujourd'hui. C'est surtout en France, on a rejeté l'idée de royauté il y a longtemps. Ah, c'est pas. Cette idée d'hiérarchie et pouvoir total lié au sang, ça, c'est pas très bienvenu dans notre vision du monde. Donc, comment moi, je comprends cette idée de royauté? Pour les chrétiens de l'époque, eux, ils ne voyaient pas ça. Mais cette idée de royauté, ça évoquait soit une idée de la ligne de David, le roi d'Israël, le roi des Juifs, et dans la ligne de David, Jésus, ou l'Empire romain, qui n'était pas, peut-être pas exactement royauté, mais ça avait cette même idée de pouvoir ultime, de pouvoir. Et donc, c'est probablement plus à ça qu'eux, ils pensaient quand ils pensaient aux royautés. Et en fait, ce verset s'est tiré directement d'Exode 19:6, quand on lit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte ». Et dans ce verset, c'est Dieu qui parle à Moïse et il parle du peuple d'Israël, peu après qu'il les a libérés d'Égypte. Et ce que Dieu dit, c'est de leur dire qu'ils sont des prêtres qui appartiennent à sa royauté. Ils ne sont pas des rois eux-mêmes, mais ils sont inclus dans la famille royale de Dieu. Et chaque chrétien, chacun de nous aussi, en Jésus, on est devenu fils ou fille du roi, adopté dans la famille de Dieu, dans sa royauté. Donc sa royauté est devenue la leur, et c'est devenu la nôtre aussi. On est dans la famille royale. Du coup, nous aussi, on est des prêtres royaux. Et nous formons une nation sainte. Et cette nation, ce n'est pas une nation politique. Ce n'est pas comme l'Empire romain. C'est tellement plus grand que ça. Pierre cite encore l'Ancien Testament, les paroles de Dieu que Moïse instruit les peuples d'Israël. Vous êtes une nation sainte. Une nation qui lui appartient. Et une nation qui est sainte, pas à cause de leurs actions, mais à cause de sa sainteté. C'est sa sainteté qui les rend saints. Et c'est vrai pour nous aussi. C'est la sainteté de Jésus qui nous rend saints. On est des prêtres royaux, une nation sainte, parce que nous avons un Dieu qui est saint et qui est le roi des rois. Et le dernier descriptif que Pierre il utilise, c'est un peu plus, pas difficile à comprendre, mais pour moi, c'était un peu trompeur, peut-être. Parce que moi, quand je pense à un peuple racheté, je pense à Jésus. Je pense à Jésus qui m'a racheté. Et je pense que c'est vrai, Jésus, il nous a racheté et on est racheté en lui. Mais dans ce que j'ai lu dans les commentaires, ce n'est pas cette idée qui est... l'idée de Pierre dans ce verset, mais cette idée qu'ils sont un peuple que Dieu fait sien. Dieu, il leur a dit, et vous êtes à moi, vous êtes mon peuple. Et ça revient un peu à cette idée de qui suis-je du début. Et souvent, je pense que pour la plupart de nous, une partie de notre identité, c'est liée à notre appartenance. Je suis la fille de mes parents. Je suis dans la famille Johnson. Et de la même manière, un aspect de notre identité en tant que chrétien, c'est qu'on appartient à Dieu, à sa famille, à sa royauté, à son peuple, à sa nation. On a une identité en lui. Et pour ces chrétiens qui étaient dispersés et persécutés, j'imagine que cette question d'appartenance était assez présente. Et Pierre veut les rassurer qu'ils appartiennent. Ils appartiennent au royaume de Dieu quand ils sont rejetés du monde. Et ce royaume est bien supérieur. Appartenir à ce royaume, c'est mieux que d'appartenir à l'Empire romain. C'est une identité qui donne une sécurité rassurante dans une vie remplie de difficultés. Et on arrive au deuxième afin d'eux dans nos versets. Dieu nous a choisis. Il a fait de nous un peuple qui lui appartient, une nation de prêtres royaux dans son royaume. Pierre veut que ces chrétiens saisissent pleinement cette identité, car c'est grâce à cette identité qu'ils sont capables de faire le deuxième afin d'eux. Et c'est afin de proclamer les louanges de Dieu. D'autres traductions de la Bible disent « célébrer » ou « annoncer les œuvres merveilleuses de Dieu ». Même dans les difficultés que ces chrétiens affrontaient, ils pouvaient proclamer les louanges de Dieu. Ils pouvaient annoncer ces œuvres merveilleuses. Car l'œuvre la plus importante de Dieu, c'est l'œuvre qu'il fait à l'intérieur d'une vie. C'est l'œuvre qu'il fait en nous pour faire que nous sommes des pierres vivantes, des prêtres saints, une maison spirituelle, un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte et un peuple racheté, le sien. Ça, c'est l'œuvre qu'il fait qui est le plus important, le plus impressionnant. Et proclamer ses annonces, ses louanges, c'est parler de lui, c'est parler de ce qu'il est et de ce qu'il fait, de ses œuvres et de sa personne. Et avez-vous des œuvres de Dieu que vous pouvez proclamer? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux annoncer autour de toi? Les louanges que tu peux proclamer? Pierre donne dans le dernier verset trois pistes générales de ce que les chrétiens peuvent annoncer des œuvres merveilleuses de Dieu. Dieu les a appelés des ténèbres à la lumière. Dieu les a inclus dans son peuple. Et ils ont obtenu la compassion de Dieu. Et tout cela, c'est vrai pour eux dans l'année 63-64. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Nous avons été transportés des ténèbres à la lumière. Nous avons été inclus dans le peuple de Dieu. Et nous avons obtenu de la compassion. Ça me fait revenir à la question du début. J'étais et maintenant je suis. J'étais dans les ténèbres. Je suis à la lumière. Je n'avais pas obtenu compassion. Maintenant j'ai obtenu compassion. J'étais perdue et seule. Et maintenant, je suis parmi le peuple de Dieu. Je suis un des peuples de Dieu. On peut proclamer ces œuvres. Et elles sont merveilleuses. Donc, on arrive à la fin du texte d'aujourd'hui. Et je veux vous encourager simplement à prendre quelques moments, quelques instants pour réfléchir sur ce que vous avez compris sur votre identité en Jésus. Peut-être il y a une petite chose, un petit quelque chose de nouveau dans ce que vous avez compris de qui vous êtes en Jésus. Et quel est le comportement, la façon d'agir qui peut en découler? Parce que nous sommes sûrs de qui nous sommes en Jésus. Quel impact ces versets ont-ils sur votre réponse à la question « Qui êtes-vous en Jésus ?» Et comment cette identité vous encourage et vous rend capable d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels et de proclamer ses louanges et ses œuvres merveilleuses. Prions. Seigneur Jésus,